10h midi sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe du Journal Elle sur Europe 1, comme tous les dimanches entre 11h et midi, avec nous dans ce studio, la joyeuse bande, Olivia de Lamberterie.
Bonjour.
Édouard Dutour.
Bonjour les filles.
Alix Giraudelin.
Bonjour.
Catherine Ney d'Europe 1.
Bonjour.
Et puis Florence Bensadoun en duplex de Cannes. Bonjour Florence.
Bonjour Marion.
Ça
bonjour
va bien
Paris. Ça va très très bien.
Oh bonjour Paris, vous êtes fait plaisir. On revient vers vous très vite, ma Florence. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale faite des mamans. Il est jeune, il est beau, il sent bon, le sable est chaud. C'est le cadeau idéal pour la fête des mères, élu meilleur pâtissier du monde. Il va bientôt animer la nouvelle émission de France 2. Qui sera le prochain grand pâtissier? Nous demanderons à Christophe Michalak s'il est forêt noire ou religieuse. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille.
Okay, toute, la bande,
toute la bande s'est retroussée les manches et le caouet pour vous dire comment positiver la météo, qu'est-ce qu'on se met, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. C'est notre mode d'emploi, pluie. Sa mère a été l'épouse de Léo Ferré. Pendant près de 20 ans, elle a vécu aux côtés du célèbre chanteur et d'une véritable arche de Noé, dont Pépé, la terrible chimpanzée. Annie Butor témoigne de ses années folles dans un livre incroyable et répondra à nos questions. Et puis, comme tous les dimanches, nous retrouverons ce qui a buzzé cette semaine. Il y sera question du plaidoyer pour Christine Lagarde de Queen Cat, du palmarès de Cannes de Florence Bensadoun, du mercato télé d'Edouard. La revue de presse et de tweet ainsi que le questionnel. Aujourd'hui, c'est l'homme qui coiffe Nicole Kidman depuis 2 semaines au Festival de Cannes, le coiffeur star John Nolet. Qui s'y colle et qui s'y laque. Vous êtes bien sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Christophe Michalak. A tout de suite.
Il n'y en a pas deux comme elle. 11h midi sur Europe 1.
Marion Ruggieri.
Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle sur Europe 1, élu meilleur pâtissier du monde en 2005. Sa pose, il est en charge depuis 13 ans d'une brigade de 25 personnes au très chic Plaza Athénée, à 2 pas d'ici. En septembre, il ouvrira son premier atelier boutique. Et dès le 2 juillet, on le découvrira dans une nouvelle émission culinaire signée France 2 cette fois-ci, qui sera le prochain grand pâtissier. Voilà pour la partie pro, pour la partie perso. Toutes mes copines sont amoureuses de lui. Las, je viens d'apprendre qu'il est déjà pris. Normal, ses éclairs sont notoires et mortels. Christophe Michalak, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Merci, mais merci à vous, c'est un plaisir.
Vous allez bien?
Écoutez, oui, moi je pète la forme, j'ai plein d'énergie. Même si le soleil n'est pas là, moi je suis au taquet, donc j'adore.
Ça tombe bien, c'est une émission spéciale anti-pluie. Alors, on voulait vous recevoir avant tout le monde, même si beaucoup vous connaissent déjà, parce qu'avec cette émission sur France 2, oui, qui commence en juillet, vous allez un peu devenir le Cyril Lignac de la pâtisserie, ça vous le savez.
C'est pas le but, hein. J'aime beaucoup Cyril, mais c'est pas le but. Non, l'idée c'est de démystifier le métier de pâtissier. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé cette voie, on me disait c'est une voie de garage, qu'est-ce que tu vas faire pâtissier? Enfin, bosse, passe ton bac, fais des vraies études, quoi, fais un vrai travail. Et maintenant, je rencontre des gens qui sont avocats, qui ont 30 ans, qui quittent tout et qui veulent se mettre à la cuisine, enfin en tout cas à la gastronomie, que ce soit pâtisserie, boulangerie, cuisine. On crée du bonheur, on fait des produits. En général, en fait, mon métier il marche parce qu'on offre du bonheur aux gens. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça marque.
C'est risqué aussi de choisir la pâtisserie à un moment où les journaux féminins, dont elle, que je ne nommerai pas, culpabilisent presque les femmes de manger du sucre. Si on ne veut pas grossir, il ne faut pas manger.
Oui, mais il ne faut pas diaboliser tout ça. Parce que regardez, moi, je mange, je pense, plus que n'importe qui d'autre et je fais beaucoup de sport. Et
vous
voilà,
êtes gros quand même, Christophe.
C'est une publicité vivante pour la pâtisserie, en fait.
Bah écoutez, non, j'essaie de faire attention, mais mine de rien, voilà, je prends du poids comme tout le monde. Mais voilà, j'ai un vrai rapport addictif avec mon métier, avec le sucre, avec le chocolat. Moi, je mange. C'est une vraie jouissance pour moi, en fait, de faire des gâteaux et de les manger.
Vous n'en avez jamais marre,
Alix?
Non.
Après avoir goûté 17 gâteaux, jamais.
Si, le soir, j'ai envie de vomir, je me dis non, là, il faut que j'arrête. Et le lendemain, je recommence.
Voilà. Alors, qui va être le plus grand pâtissier? France 2, donc, colle au peloton. Ça va consister en quoi, cette émission?
Tout simplement, on est parti à la recherche de 10 jeunes pâtissiers. On essaie vraiment de trouver la crème de la crème qui pourra devenir un très grand chef par la suite.
Mais est-ce que Christophe, c'est vrai qu'il y a une révolution dans le monde de la cuisine. Aujourd'hui, les chefs sont jeunes, beaux, c'est des rockstars. Ils sortent avec des Miss France. C'est un peu le post-Maïté. Alors ça, c'est plutôt très sympathique. Mais est-ce que la cuisine n'en pâtit pas un peu ou pourrait-elle un peu baisser de niveau parce qu'on passe plus à la télé que dans sa cuisine?
Non, je pense pas. Parce que les vrais chefs, quoi qu'il en soit, moi, j'ai un amour profond avec mon métier, donc je suis toujours, quoi qu'il en soit, dans mon laboratoire avec mon équipe. Alors bien évidemment, après, il y a un autre travail qui se fait, c'est d'être aussi à la télé et de parler de soi. Mais plus on parle de nous, plus on fait rayonner notre métier, donc je pense que c'est important.
Alors, côté parcours, justement, on va parler de vous, Christophe. Avant de devenir le beau gosse de la pâtisserie, vous avez eu une enfance plutôt rude.
Ouais, rock'n'roll.
Rock'n'roll, mère italienne, infirmière, père polonais qui n'était pas votre père biologique.
Oui, c'est mon père, c'est celui qui m'a reconnu.
Voilà, qui vous a reconnu, qui buvait beaucoup.
Oui, vous savez tout ça. Ouais.
Je sais tout ça, mais parce que vous l'avez dit, je ne me serais pas permise
d'accord,
autrement.
D'accord, bien joué.
Voilà, enfin, une enfance donc chaotique quand même. Est-ce que c'est pour ça aujourd'hui que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas?
J'ai été voir un psy il y a quelques années, parce que j'ai divorcé, c'était assez douloureux. Et en fait, ce psy a voulu savoir d'où je venais et pourquoi j'étais comme ça. Et en fait, voilà, j'ai eu une enfance très dure. J'ai eu mon vrai papa biologique que j'ai rencontré quelques années plus tard, qui était un mec vraiment pas sympa, qui était un coureur de femmes, qui était un escroc, etc. Et en fait, je suis devenu l'antithèse de ça. Et comme j'étais baigné dans les BD Marvel et compagnie quand j'étais jeune, j'ai rêvé en fait un jour d'être un super-héros pour sauver justement ma mère, pour sauver les gens que j'aimais, pour faire rayonner tout ça. Donc en fait, voilà, tout s'explique à travers parfois les psys. Et étonnamment, maintenant, j'ai une vraie forme de résilience. C'est-à-dire que plus vous me tapez dessus, plus je deviens fort. Et puis moi, vraiment, j'aime la bienveillance. J'aime parler des gens, j'aime les accompagner, etc. Donc voilà, c'est un peu le...
Alors, on n'a pas du tout envie de vous taper dessus.
Non, mais il y a toujours des gens qui vous veulent du mal.
C'est un peu l'école Alain Ducasse, d'ailleurs, non?
D'ailleurs,
non, alors, d'énergie,
moi, j'aime
de...
beaucoup l'homme, mais non, en fait, pas du tout. Enfin, je travaille avec Alain Ducasse et,
qui est donc patron, qui est un peu le
patron de la cuisine,
patron de la cuisine en France et du Plaza, la cuisine du Plaza à TD.
Ouais,
vous avez choisi alors que vous n'étiez pas un de ses poulains au départ.
Non, alors moi, la petite histoire, c'est Jean-François Piège qui est comme mon frère que je connais.
Chef Piège, chef pour les intimes.
Depuis 20 ans, qui un jour m'appelle en disant écoute, Yann, on va déménager notre restaurant, on va s'implanter au Plaza d'Athénée. Il y a une place de chef pâtissier qui va se profiler. Il dit je t'ai pris rendez-vous avec Alain Ducasse. Et là, les deux se parlent entre eux. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'existe pas, en fait. Et ça m'a, encore une fois, dans cette forme de résilience, je me suis promis que plus jamais on allait me négliger
si
comme
là.
Ça.
D'ailleurs, les cuisines d'un grand restaurant, c'est un peu le dernier service militaire, d'ailleurs, quand on
va. Oui.
Quand on rentre en cuisine et quand on travaille au sein d'une brigade, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on est très militaire, on est très organisé. On a l'impression qu'on sauve une vie, hein. Donc effectivement, on fait que des gâteaux.
Ah, c'est très important.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas, Olivia. Pardon, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup finalement de chefs.
Malheureusement, et je le dis, il n'y a pas assez de parité dans notre métier.
Oui.
Ça arrive. En fait,
arrive.
Ce qui est étonnant, il n'y a que la France qui est comme ça, parce que vous allez en Russie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y a énormément de filles. Il n'y en a pas assez chez nous, mais ça commence.
Alors, Edouard.
Je voulais savoir si la psychanalyse joue encore un rôle, parce que quand on a eu cette enfance difficile, est-ce que la pâtisserie, les douceurs, c'est aussi une consolation de la vie antérieure?
Je pense. Moi, je dis toujours la même chose, mais moi j'ai voulu faire plein de choses, hein, super-héros, rockstar, tout ça, pour séduire les filles. Et puis finalement, je suis rentré un peu par hasard dans le monde de la pâtisserie, parce que j'aimais bien dessiner, et puis j'étais extrêmement gourmand.
Et ça marche avec les filles?
En tout cas, avec ma femme, j'ai trouvé ce qu'il me fallait maintenant, donc tout va bien. Mais ce qui est vraiment important, je pense, c'est d'être bien dans sa tête, dans ses baskets.
En parlant de filles, c'est vrai que il y a 20 ans, dire qu'on voulait être cuisinier ou pâtissier, c'était un peu ringard, ça faisait pas rêver une fille, et aujourd'hui c'est super classe quand même. Quand on a 15 ans,
une anecdote
de la cuisine
type de ma vie,
sexy, quoi.
Oui.
C'est
boucher,
à 20
c'est
ans,
mieux quand même.
Ah oui, complètement. À 20 ans, j'étais au Negresco à Nice, donc j'étais commis pâtissier comme tout le monde, je travaillais vraiment de 9h à minuit, c'était vraiment très très rude, et je sortais avec à l'époque une fille qui faisait une thèse de lettres, et donc moi j'étais très fier, c'était la plus belle fille des environs, grosso modo. Et en fait, toutes ses copines, elles me disaient, mais tu fais quoi? T'es à la fac de médecine? T'es où? J'ai dit, non, je suis juste pâtissier. Et donc là, vraiment, c'était pâtissier, quelle horreur. Et donc, je surenchérais en disant, non, mais attendez, je travaille quand même à l'hôtel Negresco, quoi. Ah oui, c'est un peu mieux, quoi, mais bon.
Christophe Edouard, on a demandé donc à un garçon de vous concocter un petit questionnaire pâtisserie.
Oui, parce que comme les filles, elles sont toutes amoureuses de vous, moi je me suis dit, je vais un petit peu vous embêter, mais c'est très gentil, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que le retour du Paris-Brest, c'est un tribute à la météo actuelle? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait tout le temps de Brest partout en France.
Ouais, moi je suis en moto toute l'année, et là je peux vous dire qu'un bon Paris-Brest, là ce matin, c'est pas trop fieux.
Vous en faites des Paris-Brest?
Ouais, il est mortel, le mien.
Dans la famille des vieux desserts, il y a aussi le retour de la religieuse. Est-ce que vous êtes un peu mystique? À part la pâte feuilletée, quelle est votre religion?
La religion du sucre, du chocolat et de la bonne humeur. Mais c'est vrai que la religieuse, j'ai développée en 2000. Ça a été ma première création au sein du Plaza. Et j'ai fait une religieuse caramel beurre de sel qui est vraiment quelque part la meilleure vente et le produit qui plaît à tout le monde.
Alors ici, on est tous fans d'un dessert, c'est le Mont Blanc.
Ouais,
et moi, je voulais savoir quel est votre Everest dans votre carrière. Quel est votre top, le moment où vous vous êtes dit, là, c'est immense?
Bah justement, j'ai monté le Mont, j'ai grimpé au Mont Blanc, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc il y a 2 ans, et je peux vous dire qu'il faut être vraiment entraîné, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et j'étais bien content de descendre, et voilà, on a ripaillé avec les amis après.
Et de manger de la crème de marron.
Une dernière pour la route.
Pour vous dire, c'est du lait Nestlé et de la crème de marron que je pouvais manger là-haut, parce qu'il fait tellement froid qu'il y a que ça qui passe. Ouais, hein.
Allez, 2 dernières questions très vite. Si je vous dis Forêt Noire, quelle est votre part d'ombre?
C'est bon, déjà, je suis pas très fan de la Forêt Noire. Ma part d'ombre, elle est simple, c'est que je suis quelqu'un qui a aucune patience.
Et enfin, une dernière question un peu grivoise, parce que c'est un peu mon rôle ici. Si une fille fait la crêpe, qu'est-ce que vous faites? Vous la retournez?
Non, j'aime qu'il y a du répondant. Voilà.
Oh, Edouard, il était merveilleux ce questionnaire. Christophe, avant de se quitter, c'est la fête des mères aujourd'hui. Si on n'a pas envie de lui faire un collier de nouilles, qu'est-ce qu'on peut lui faire?
Ben, vous savez quoi, avec mon beau-fils, on a fait un gâteau pour sa maman. Et j'ai pris des sablés bretons, achetés normalement à droite à gauche. Je les ai broyés avec un tout petit peu de beurre pour les colmater, du beurre fondu.
Ouais. Et donc, ne broyez pas les tables.
Donc, j'ai mis ça dans un cercle sur 5 mm d'épaisseur. Ensuite, j'ai rangé des jolies framboises tout autour. Et après, avec une crème chantilly, on a tout simplement fait un joli cœur sur la tarte.
Facile.
Voilà, simple, efficace.
Bah, vous foulez pas.
Ouais. Hein, c'est ça.
Ça a l'air Christophe Michalak, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc à partir du 2 juillet sur France 2, bien sûr au Plaza Athénée. Et puis vous allez ouvrir donc cet atelier boutique en septembre.
C'est mon rêve depuis des années. J'ai voulu faire quelque chose de différent de tous mes confrères pâtissiers et ça va swinguer. Ça va.
Juste une chose, pourquoi est-ce que les pâtisseries aujourd'hui ressemblent à tout sauf à des pâtisseries, des fleuristes, des galeries d'art, de la haute joaillerie?
Je pense qu'on s'est fait avoir en fait. On a voulu faire comme Dior, mais Dior, lorsqu'ils vendent une jolie chemise avec la boîte et tout ça, voilà, nous, quand on vend un gâteau à 5 euros, on a du mal à s'en sortir.
Merci Christophe, à très bientôt, j'espère. On se retrouve nous dans un instant avec notre point météo. À tout de suite sur Europe 1. Bienvenue à Il n'y en a pas deux comme elle. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous sommes toujours avec toute l'équipe du journal Elle et Catherine Ney pour parler de ce qu'il faut bien appeler un temps de mierda. Catherine, votre analyse sur la question, est-ce que depuis que François Hollande est élu, il ne fait pas que pleuvoir par hasard?
Mais si, d'ailleurs il le dit lui-même, gouverner c'est pleuvoir, il l'a dit,
c'est drôle.
Mais moi je trouve que la France en ce moment, quand vous regardez les cartes, elle est maudite, parce que vous voyez deux masses roses, donc Moscou il fait 30 degrés,
c'est
vous
vrai.
Voyez, et à l'est, et nous il y a une espèce de goulot d'étranglement et le froid qui passe sur la France. Alors je ne sais pas si politique et météo vont ensemble, mais enfin voilà, c'est un constat.
Dieu est de droite, vous croyez?
Je vais m'interroger.
Alors mariage heureux, mariage pluvieux, dit le proverbe, qui ne veut pas du tout dire ça d'ailleurs. Mm-hmm. On a décidé de faire de la pluie un heureux événement, c'est notre mode d'emploi impossible. Edouard, on commence par votre savoir-vivre avec la pluie.
Eh bien oui, parce qu'à Elle, on s'efforce d'être tout le temps tendance. Alors puisque la météo change, eh bien nous on s'est adapté et on a trouvé des petites solutions pour rester dans le coup, même si, eh bien, la température et l'humidité changent. Alors moi, je vais vous parler de ma vie, c'est-à-dire apéro, drague, bureau et night. Alors l'apéro, avant, en cette saison, on crevait de chaud rien qu'à couper du saucisson et on faisait des bâtonnets de concombre pour faire le régime. Alors aujourd'hui, quand mon sky et qu'il pleut, on regarde la pluie tomber, on a le cœur serré. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un pâté, une bouteille de rosée et on s'en fout si on grossit, si on est obèse, parce que de toute façon, ça se verra pas, puisqu'on va rester en doudoune tout l'été. Alors, côté drague, avant, quand il faisait chaud, on mettait le feu, on se mettait de l'huile de coco, on faisait des gestes lascifs, on ondulait, on faisait des gestes lubriques. Et bien, aujourd'hui, plus du tout. On est en cardigan, on a des choses plus douces, plus désuètes, on drague un peu comme nos grands-mères. On va au salon de thé, et voilà, ça a son charme, c'est un peu moins torride, mais à la fois, c'est assez sympathique. Alors, au bureau, qu'est-ce qu'on fait? Avant, il faisait beau, et on était triste d'être au bureau.
Ah oui.
Voilà. Et on avait un rhume à cause de la clim. Aujourd'hui, on est toujours triste, mais notre chef, il est super content, parce qu'on fait que bosser, parce qu'il y a absolument que ça à faire. Et puis enfin, pour la fête, avant on disait vamos a bailar, on était tous des Espagnols, on dansait sous les étoiles, et bien aujourd'hui on hurle pour couvrir le son de la grêle, et puis on est tout collé serré sous des terrasses couvertes où on se retrouve pour aller fumer et pleurer, et bien de bonheur. Voilà, c'est comment résister en temps de pluie.
Olivia, alors savoir s'habiller par temps de pluie, c'est important aussi.
Alors en fait, il faut adopter la stratégie des couches, c'est-à-dire que vous mettez 3 couches successives.
L'oignon.
Une couche de printemps, une petite robe que vous pouvez mettre, par-dessus une couche d'automne, une veste et par-dessus une doudoune. Vous enlevez juste le forfait, ça fera un petit peu moins ski. En dessous, la seule pièce qu'on peut sortir finalement en ce moment, c'est le short. Parce que le short, c'est le nouveau
Jean.
Merci Marion, il y en a une. C'est le nouveau jean. Et là, vous pouvez garder vos collants de ski, vous savez, les collants bien épais et bien opaques, et sortir votre short en ville, comme ça, au moins, vous serez sexy. Avec quelles chaussures? Des escarpins, des ballerines, tout ça, vous oubliez. Des bottes, la botte et la chaussure. Du printemps et même de l'été, je peux même déjà vous dire à l'avance un scoop qu'on va mettre des bottes avec nos maillots cet été. Alors, vous oubliez les Uggs, parce qu'on
vous fera un mode d'emploi, Catherine, pour l'été.
Les Uggs qui ont trop vu de neige, météo oblige, on dirait deux écureuils morts, donc vous les jetez à la poubelle. Vous prenez des bottes de moto. C'est la grande tendance. L'autre option, c'est de mettre des vêtements d'hiver, mais comme c'est trop déprimant, vous les choisissez en couleur d'été. Par exemple, moi j'ai une très bonne amie que j'adore qui met un manteau orange. Et ça, ça peut marcher pas mal.
Mais c'est son côté modem.
Enfin,
je parle pour ceux qui ont connu ce temps-là.
L'autre solution, c'est que c'est le moment de sortir toutes les pièces que vous avez achetées en solde cet hiver. Et vous savez, vous êtes un peu raté parce qu'il n'y avait plus que des mauvaises couleurs ou pas tout à fait la bonne taille. Là, c'est le moment de les mettre.
Et puis il y a un truc génial, Olivia, sur le shopping, puisque vous parlez de vêtements. C'est qu'avant, en juillet, il y avait la collection d'hiver qui arrivait. On se demandait ce que foutaient tous ces pulls en chocolat dans les boutiques. Cette année, on va être super contents parce qu'on va acheter des modules.
Et le dernier truc, c'est qu'on peut enfin mettre une pièce à l'ADN fou, qui est le col roulé cachemire sans manches. Vous savez, Sharon Stone, elle en met assez souvent et c'est très très sexy.
Mais ça ne sert à rien.
Mais c'est un truc qui ne sert à rien parce qu'en hiver, vous avez froid, en été, vous avez chaud. Et bien là, je pense
qu'on peut peut-être la tenter.
Alors, Alix, vous avez mis au point une cellule psychologique
de soutien, parce qu'on voit tellement de gens déprimés, donc j'ai commencé par traîner un peu sur le net pour essayer de trouver un genre d'étude danoise, vous savez, ou slovaque, qui dit mais en fait c'est formidable
que ces gens-là sont heureux, ils suicident à 20 ans, voilà. Il fait nuit à 2 heures,
mais
ils
boivent beaucoup quand même.
Moins il fait beau, plus on est heureux, tout ça, ça n'existe pas. Même avec la pire mauvaise foi, j'ai trouvé que des études disant que tout va mal quand il fait pas beau. Donc je me suis dit, on va y aller en méthode Coué, on va essayer de donner aux auditrices d'Europe 1 des raisons de se réjouir malgré tout. Alors déjà, on peut peut-être, Edouard parlait de la fin des régimes. C'est vrai que les maillots, c'est l'année prochaine, parce que là, je pense que c'est foutu pour l'année. Donc, c'est déjà quelque chose. La fin des dépenses d'épilation. Vous imaginez tous les bras, les pognons qu'on laisse là-dedans, et pas que les bras. Et bien ça, plus aucun besoin pendant
tout l'été. On reste un yeti.
Le dermatologue qu'on croise par hasard dans la rue qui vous fait la tronche parce qu'elle trouve que pour un 28 mai, vous êtes bien trop bronzé et que votre capitale solaire, ça va pas du tout, c'est fini. Elles nous kiffent, nos dermatologues, elles sont contentes. Et aussi, je trouve que d'une façon générale, on voit vraiment qui sont les gens dans ces moments de détresse climatique. On a en face de nous des femmes qui remettent des collants. Je trouve que de leur part, c'est à la fois un peu renoncer parce qu'on se dit, et c'est, on continue quand même.
Je crois la résilience.
De la résilience, c'est des gens qui font pas la gueule en ce moment, et ben c'est des vrais. On pourra toujours compter sur eux. C'est des Volvo, ces gens-là. C'est pas de la petite italienne qui va vite et qui vous laissera au bord de la route. Je crois que c'est vraiment le moment de resserrer les rangs et de choisir ses amis et ses amours
le
pour la vie.
Le soleil est dans notre cœur.
J'espère vous avoir remonté le moral.
Merci à tous et toutes pour ce morceau de bravoure. On se retrouve donc dans un instant sur Europe 1 avec le témoignage d'Annie Butor, belle-fille de Léo Ferré qui a connu le paradis puis l'enfer avec lui. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Europe 1, merci d'écouter, il n'y en a pas deux comme elle. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec toute l'équipe du journal Elle et Queen Catherine. Son livre s'appelle « Comment voulez-vous que j'oublie ?» aux éditions Phébus, un titre qui sonne comme une réponse à une chanson de son légendaire beau-père. « Avec le temps va, tout s'en va », elle n'a rien oublié de ses 18 années passées aux côtés de Léo Ferré, le mari de sa mère. 18 années qui ont commencé comme un rêve avant de virer au cauchemar, dans un château qui a tout de l'Arche de Noé, où règne Pépé, femelle chimpanzée, enfant gâté, qui a la force de 8 hommes et qu'elle doit traiter comme sa sœur. 20 ans après la mort de Ferré, elle raconte sans amertume ces années folles où elle a réussi à ne pas perdre la raison. Annie Butor, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Vous allez bien ?
Très bien, je vous remercie.
Alors Annie, votre mère rencontre votre beau-père en 1950.
Oui.
Léo Ferré a 33 ans.
Oui.
Elle en a 25 et une petite fille de 5 ans.
Oui.
Vous, c'est la bohème. Ferré n'est pas encore connu, ça n'est pas encore le Léo Ferré. Quels souvenirs gardez-vous de ces premières années ?
Je garde le souvenir d'un homme timide, très très gentil, et avec moi, adorable, mais dont je me méfiais beaucoup parce que ça allait devenir le troisième mari de ma mère, qui était une femme relativement explosive, et donc j'étais assez méfiante.
Et magnifique, on voit les photos dans le livre.
Oui,
très très belle femme.
Oui, oui. Donc j'étais méfiante, mais petit à petit, la tendresse est venue assez vite et on a eu beaucoup de tendresse et ça a duré 18 ans.
Alors, le succès arrive et tout change. Votre mère et votre beau-père se consument d'une folle passion pour les animaux.
C'était déjà avant. Hein.
C'était déjà avant, mais je veux dire, ça ne s'arrange pas.
Non, mais c'est surtout l'objet de leur amour qui change. Parce qu'avant, c'était des animaux et je partageais totalement leur passion, plus que leur amour, leur passion. On a eu 12 Saint-Bernard. Oui, c'est beaucoup. Hein. Enfin, le couple
en
et puis les... En même temps.
Oh, la
vache. En même temps.
Vous viviez dans une propriété. Alors, déjà.
Non, propriété, le mot est trop beau. Non, on avait une vieille maison que louait à mes grands-parents, parce qu'on n'avait pas l'argent, que nous louait la ville de Paris, qui était en zone d'expropriation, qui était boulevard Pershing, porte Maillot, là où il y a palais des congrès maintenant à peu près. Donc c'était une vieille et grande maison, délabrée, mais très sympathique. Donc bon, il y avait quand même la place pour les 12 Saint-Bernard, mais ça fait beaucoup.
Et alors ils adoptent donc...
Et alors là, ils ont rencontré en mars 61 une petite chimpanzée qui s'appelait Gloria, qui était malade, et un petit chimpanzé... Et pourtant, je pourrais haïr les chimpanzés, hein. Mais je parle chimpanzé, mais là, je ne vais pas vous faire la démonstration. Mais pendant, il nous avait dit pendant jusqu'à l'âge de 2 ans, un petit chimpanzé, c'est passionnant plus qu'un enfant humain parce que son cerveau se développe plus vite. Et puis, c'est comme un petit bébé. Enfin, c'est merveilleux. Et donc, j'étais partante. Et au début, donc, ils l'ont adopté. Il n'y a pas d'autre
mot. Et comment se déroule le quotidien avec ce chimpanzé, donc, qui va être baptisé Pépé?
Tout à fait. Le quotidien, au début, j'ai vu la folie qui arrivait petit à petit. C'est-à-dire, bon, pas question de vétérinaire. Hein, fallait un pédiatre pour Pépé. Ils ont commencé à lui acheter des tas de jouets. Il y a des tas de photos où on voit tous les petits jouets qu'on achète à un enfant, etc. Au début, moi, j'étais pour. Mais après, elle a grandi. Et puis un chimpanzé, 1m20, 1m30, la force de 7 ou 8 hommes, je vous avais prévenu, et élevé alors là à la nare, sans aucune autorité, aucun pouvoir.
Un enfant de 68.
Un enfant, exactement, exactement. Alors, c'est ce que je dis, un enfant roi. Bon, moi j'ai un fils de 35 ans, je ne suis pas déjà pour un enfant élevé sans aucune autorité. Mais enfin, un enfant reste un enfant, mais un chimpanzé avec la force, ça devient ingérable.
Et on vous demande de l'appeler
alors,
ce sœur.
Ça a commencé à se gâter, oui, ce sœur. Et la sœur, elle me mordait.
Parce qu'elle était jalouse.
Elle était jalouse. Mais moi,
elle manque
pas...
de vous tuer même un jour. Elle se laisse tomber sur votre
tête. Oui.
Et ce qui est affreux, c'est que vos parents deviennent très injustes avec vous parce que il y a une scène où elle vous attaque et au lieu de vous consoler, votre mère, parce que la chimpanzée est fourbe, donc elle vient après vous voir, dit oh, regarde, elle te console, regarde comme elle est gentille.
Mais c'est très malin.
Vos parents deviennent, je trouve, d'une injustice folle avec vous. C'est ça qui est bouleversant dans le livre.
Je vous remercie de le dire et j'en ai beaucoup souffert. Et là, l'épisode que vous racontez. Et la fois où ça a vraiment basculé pour moi, enfin d'une manière symbolique, on était à un gala à Trouville, je me rappellerai toujours, et après le spectacle, il y a un journaliste qui vient pour parler à Léo et à Maman, et moi j'étais avec eux, Léo ou Maman, je me souviens même plus lequel des deux, dit « Est-ce que vous connaissez notre fille ?» Moi j'étais là, et le journaliste me montre avec un gentil sourire, et l'un des deux me dit « Non, non, la vraie !» En sortant une photo de Pépé, toute dans dehors, là, la vraie fille. Je suis rentrée à Paris, à Paris. Et là, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Je me suis sentie plus aimée, plus...
Et vous décidez
Mais après, vous avez fait un cadeau, c'est Jolimôme. Jolimôme, c'est
oui, c'était en 61.
Enfin, alors, on en écoute un extrait.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, Jolimôme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, Jolimôme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme.
Alors, chère Annie Butor, à 18 ans, vous décidez de fuir cette maison de fous. Oui. Vous vous réfugiez chez votre vrai père.
Oui. Ce qui n'a pas plu du tout à Léo, parce que c'était un...
Qui vous en veut
bourgeois.
À mort. Ouais. Qui vous
à Léo m'en a voulu énormément, parce que j'ai été élevée avec la haine, entre guillemets, des bourgeois. Enfin, en tout cas, des définitions très ferréesques des bourgeois. Et quand je me suis sauvée, retrouvée chez mon père, ben, mon père, c'était un modèle de bourgeois, dans le sens
Et Ferré finit par s'enfuir à son tour, en abandonnant votre mère à cet enfer qui est devenu ce château du Lot, où il n'y a pas que la Pépé, il y a toute une ménagerie.
On avait 5 chimpanzés.
5 chimpanzés, un cochon, des vaches, des moutons, des chiens.
Alors les autres animaux restaient des animaux, même le gros baba,
enfin,
le gros cochon.
Enfin, le cochon regardait la télé quand même.
Ah oui, il regardait la télé, rentrait à la maison.
Le nom de la mère et des tantes de Léo Ferré.
Oui, tout à fait. Enfin, on était en plein anthropomorphisme.
Et par contre, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la passion pour les animaux, est-ce que vous avez compris pourquoi ils étaient comme ça, ce que ça voulait dire, quel était, est-ce qu'il y avait un transfert, est-ce qu'il y avait une explication, parce que ça suffit pas d'aimer les animaux pour se comporter comme ça.
Aussi. J'ai un peu compris quand même, oui. Mais il m'a fallu du temps. Mais même sur le moment, si vous voulez, oui, c'était leur enfant. C'était quelque part leur enfant. Et non, et surtout, ils voulaient prouver, c'était pour moi, et je les mets dans le même sac tous les deux, de la prétention. Ils voulaient tous les deux prouver au monde entier qu'ils feraient mieux que tout le monde et qu'ils allaient trouver le chaînon manquant et que le chimpanzé était soit notre cousin, soit notre frère. Léo lisait Darwin, voilà, mieux que tous les chercheurs.
Ils pensaient que la chimpanzé allait parler.
Ah, totalement.
Ils pensaient qu'elle allait finir par parler.
Peut-être pas. Ils avaient fini peut-être vaguement par comprendre que anatomiquement, c'est pas possible à cause de la langue trop grosse ou de la position du pharynx, enfin, anatomiquement. Mais le langage des signes, ils se disaient qu'eux allaient arriver et eux allaient prouver au monde.
Ils qu'elle était intelligente.
Et prouver qu'elle était intelligente et que c'était notre cousin ou notre frère.
Ferré chante avec le temps, on va tout s'en va. Est-ce que la souffrance, elle est partie chez vous?
Chez moi?
Aujourd'hui?
Bah, là, en ce moment, pas trop, parce que ça revient. Hein. J'avais baissé le rideau, moi, à un moment, parce que j'en ai souffert. Et là, maintenant, bon, ça va aller mieux. Je pense que ça va aller mieux.
Annie Butor, votre mère est morte en 1993.
Ça fera 20 ans aujourd'hui.
Comme Ferré. 20 ans aujourd'hui. Oui. C'est pour réhabiliter sa mémoire que vous avez écrit ce livre?
Oui, parce que elle est passée pour une médée qui avait tué par vengeance ou assassiné. Je ne supportais pas. Elle en a beaucoup souffert. Moi, quand elle était vivante, j'en souffrais moins. Je m'occupais d'elle au quotidien pour l'aider à survivre. Mais maintenant, je ne peux plus supporter qu'on écrive que maman a fait assassiner par vengeance.
Et quant à Ferré, il a finalement épousé la fille des domestiques espagnols qui travaillaient chez vous.
Non, c'est pas ça.
Il a fait 3 enfants.
C'est pas ça. Et là, il faut mieux pas me brancher là-dessus.
D'accord, mais vous lui avez pardonné.
C'est hors sujet.
Le livre lui aussi dédié.
Oui, parce que je cloisonne.
Très bien, merci.
Je vous en
Annie
prie.
Butor, merci. Votre livre s'appelle « Comment voulez-vous que j'oublie ?»
Du mal-aimé, un vers du mal-aimé d'Apollinaire.
Exactement, c'est aux éditions Phébus. À très bientôt, j'espère.
Merci.
On se retrouve, nous, dans un instant avec Le Bozo, en direct de la Croisette. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle. Qu'est-ce qui fait causer? Qu'est-ce qu'on aime? C'est le bezo de la semaine. Catherine, on commence par la directrice du FMI qui risque d'en prendre pour son grade. Christine, prends la garde à toi.
Ah, oui,
c'est le meilleur jeu de mots de la matinée.
Pour nos auditeurs et nos auditrices, il faut bien voir que c'est une affaire politique. Il faut avoir cette grille de lecture. Bon, je ne parlerai pas de Bernard Tapie, dont le sort m'indiffère, mais il faut quand même le replacer dans un contexte, c'est à savoir la faillite du Crédit Lyonnais, qui est d'une banque nationalisée, ce qui prouve que les banques nationalisées, c'est quand même dangereux, dont le montant des pertes, c'est plus de 20 milliards d'euros.
Ouais. Hein,
aucun des protagonistes n'a jamais été puni ni poursuivi par la justice. Donc c'était quelque chose qui durait depuis longtemps, il fallait en sortir, parce que pour l'État, il y avait des frais d'avocats qui pouvaient se monter à plusieurs centaines de millions. Mais oui. Donc, Christine Lagarde a hérité de ce dossier dont les tractations avaient déjà commencé. Et Tapie a été effectivement indemnisé d'une somme qui est importante, de 100 millions d'euros, plus un préjudice de 40 millions. Donc, ça a été fait au moment où elle venait, en 2009, elle était juste ministre des Finances, mais bien sûr, les socialistes ont voulu attaquer à travers elle et saisir la Cour de justice, donc Jean-Marc Ayrault était en pointe, parce qu'on voulait viser Sarkozy, qui bien sûr, on pensait qu'il avait favorisé Tapie, et c'était lui qu'il fallait... Bon, Madame Lagarde s'est défendue, mais entre-temps, elle est nommée au FMI.
Et c'est bien là le problème.
Où elle réussit très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre problème politique qui se pose à la France. Bon, on s'est déjà fait remarquer au FMI avec Dominique Strauss-Kahn, et quand même, ça a été une honte pour la France. Là, c'est une femme qui accède à ce poste et qui fait l'unanimité parce que vraiment, elle réussit très bien. Or, si la Cour de justice la met en examen suite à la plainte socialiste, mais elle risque de perdre son poste et on ne s'en rend pas compte à quel point ce sera préjudiciable à la France et à l'Europe, parce que si elle est évincée, le nouveau patron du FMI sera soit un Asiatique, soit un type d'Amérique latine qui se moque totalement de l'Europe. Or aujourd'hui, l'Europe a besoin du FMI parce que c'est un créancier qui comprend ce qu'est l'Europe. Or, je pense qu'il serait bon pour la France qu'elle ne soit pas mise en examen.
C'est noté, merci Catherine. Edouard, alors qu'on ne sait toujours pas qui remplace Ancelotti au PSG, le mercato télé, lui, a bel et bien commencé.
Avec l'affaire Sublet, c'est vrai qu'elle avait annoncé il y a longtemps, et y compris dans elle, son départ de l'émission C'est à vous, pour des raisons assez personnelles. Et puis maintenant, voilà, on le sait, tout le monde est au courant, ça a été fait de façon extrêmement sobre, c'est Anne-Sophie Lapix qui reprend la présentation de C'est à vous. Alors on avait entendu parler de Maïtena Mbiraben, de Daphné Roulier, et pourquoi ça n'a pas été ses filles, je crois que parce que, eh bien, il fallait quelqu'un de populaire, de joli, de pugnace, de proximité. Eh bien, elles sont peut-être un peu trop parisiennes, alors qu'Anne-Sophie Lapix, elle a ce truc. Pour moi, Anne-Sophie Lapix, c'est Claire Chazal plus Jean-Michel Apathy.
Mais plus Bayonne. Voilà.
Oh. Et puis, si elles nous écoutent, elles vont toutes être
Chazal,
ravies.
Elle a le brushing de Chazal et l'accent et la pugnacité peut-être de Apathy. Et puis enfin, chapeau à Sublet, parce que jusqu'au bout, la fille est ultra chic, parce qu'elle-même a salué l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix en disant qu'elle était extrêmement contente de ce choix.
Alix, le nouveau Dan Brown est sorti, 600 000 exemplaires, et vous l'avez lu en avant-première.
Alors évidemment, donc je vais essayer de vous le pitcher, mais vous savez, c'est le genre de livre, on se dit, quand on essaie les résumés, on est chez les dingues. Donc le héros, Robert Langdon, qui a déjà sauvé la planète 4 ou 5 fois, je ne sais pas vous en souvenez, c'est un professeur de symbiologie à Harvard, et là, ce coup-ci, il est à Florence, il se réveille, il est amnésique, c'est pas grave, il lance son enquête, derrière quoi? Derrière le masque mortuaire de Dante, parce qu'un savant fou adepte de transhumanisme menace de contaminer la Terre entière. Pourquoi? Parce qu'il veut éradiquer la surpopulation, il a trouvé un moyen de lancer le virus de la peste partout. Donc au début c'est un truc de dingue, on se dit ce type est ma boule. Surtout qu'il est aidé par une mystérieuse jeune femme, donc on ne sait pas qui c'est, elle est médecin, en fait elle n'est pas vraiment médecin. Donc ils se déplacent ensemble de Florence à Venise jusqu'à Sainte-Sophie. Pendant qu'on lit ce truc, on ne peut pas le lâcher.
C'est un page-turner.
Voilà, que c'est peut-être pour Dan Brown qu'on a inventé le page-turner. C'est certain que d'un point de vue stylistique, on n'est pas chez Hemingway. Mais en même temps, et que quand on referme le livre, on se dit, mais tout ça pour ça, parce que voilà, ça fait 15 jours qu'on dort plus, qu'on est là toutes les nuits. Mais en attendant, on a passé un vache de bon moment. Donc, quand même, je crois qu'on peut le recommander aux gens.
Très bien, Alix. Et vous ne dites pas ça parce que.
Je ne dis pas ça.
Votre mari en est l'éditeur.
Je dis ça parce que vous m'avez demandé de pitcher le livre, Marie.
Exactement. Voilà. Merci, Alix. Enfin, Florence, notre star en direct de la Croisette, vous allez bien?
Ah, je vais très bien, surtout quand vous m'appelez comme ça.
Notre star, bah évidemment.
Bah oui, ça me plaît.
Alors, Florence, c'est aujourd'hui la cérémonie de clôture du festival.
Ce soir.
Sans attendre, vous allez nous donner votre pronostic. Pour ce soir, on commence par la Palme.
Alors, ce qui risque de remporter, c'est ce film d'Abdelatif Kechiche, dont tout le monde s'en est emparé. La Croisette bruisse. Tout le monde a adoré ce film de 3 heures. J'aurais adoré aimer ce film.
Ça s'appelle
La vie d'Adèle. C'est l'histoire d'une passion entre deux jeunes filles.
Léa Seydoux et la fameuse Adèle
Exarchopoulos. Voilà. Donc, on parle beaucoup d'Adèle Exarchopoulos en prix d'interprétation féminine ici. Et moi, vraiment, je trouve que ce serait mérité parce que ce qu'elle fait est très osé. Les scènes de sexe sont dans la durée, en temps réel, et elles sont particulièrement chaudes.
Mais avec le mariage pour tous, c'est tendance.
Oh, mais il y a beaucoup parce que le prix d'interprétation masculine, il risque d'aller aussi à un film d'amour entre hommes avec Michael Douglas et puis Matt Damon. Alors vous voyez, on est complètement au cœur du sujet là.
Et la Palme d'Or alors?
Et la Palme d'Or, eh bien ça risque d'être La vie d'Adèle. Mais il faut se méfier des rumeurs de Cannes parce que l'année dernière, tout le monde donnait Holly Motors Palme d'Or et puis Holly Motors n'a rien eu du tout. Donc on ne connaît pas Steven Spielberg et je ne sais pas du tout si ça va être ça. Moi,
bon,
si je remettais une Palme d'Or...
Votre coup de cœur perso, Florence,
Vous allez adorer. Vous allez adorer mon film. C'est un film japonais de Koreeda.
Une comédie, Florence, bien sûr.
Non, mais c'est un film absolument magnifique.
J'ai vu que les profs avaient monté les marges. J'ai pensé à vous.
Mais le film japonais est aussi en bonne place pour la Palme d'Or,
si j'ai bien
compris.
Il est en très bonne place. Ça s'appelle Tel père, tel fils. Et c'est l'histoire de petits garçons qu'on a échangés à la maternité et qui ont été élevés chacun dans deux familles très différentes. C'est un film mais absolument bouleversant et magnifique.
C'est la vie est un long fleuve
tranquille.
Voilà,
il a volé le concept de Châtillièse. En japonais. Voilà.
Florence, on va vérifier ça ce soir. Merci.
Moi, j'ai une dernière question pour Florence. Florence, chaque année, tombe amoureuse d'un acteur. Il y a eu Fassbinder, il y a eu Mikkelsen. Cette année, chère Florence, quel est votre crush?
Alors, ce n'est pas du tout Ryan Gosling, qui n'était pas du tout bon dans le Only God Forgives. Mais malheureusement, Mads Mikkelsen est revenu dans un film exceptionnel.
Vous êtes une femme fidèle, Florence.
Qui s'appelle Michael Collas, un film d'Arnaud Despalières. Et c'est un film, c'est un tableau, c'est magnifique.
Merci Florence. On vous retrouve pour le questionnel. Olivia, pour terminer ce buzz au ciné, c'est la fête des mères et vous le prouvez par deux films.
Exactement. Deux films qui sont drôles de collier de nouilles, hein, mais réalisés par de bonnes pattes. Parce que Angelina Jolie, après avoir fait cette lettre bouleversante où elle expliquait qu'elle s'était fait enlever les seins pour ne pas courir le risque d'avoir la même maladie que sa mère, a annoncé qu'elle allait faire un film dans lequel elle jouerait le rôle de sa mère. Sa mère, c'était Marcheline Bertrand. Et c'était une femme qui était actrice, qui était connue pour son engagement humanitaire, qui était belle à pleurer et qui était mère à plein temps. Telle mère, telle fille, mais heureusement pas tel destin tragique, évidemment, puisque maintenant Angelina Jolie est en pleine forme, en pleine santé. Et il ne faut pas écouter les mauvais coucheurs qui vous disent « Oh là là, c'est horrible, elle va jouer le rôle de sa mère dans un film produit par Brad Pitt, son mari. » Moi, je trouve que c'est un hommage et surtout c'est un cadeau pour ses enfants dont elle regrette beaucoup qu'ils n'aient pas connu leur grand-mère. Alors, beaucoup plus curieux, Guillaume Gallienne, qui a fait l'unanimité sur la
Croisette au Festival de Cannes, hein.
Avec l'adaptation de son spectacle « Guillaume et les garçons à table ». Alors, c'est rigolo parce que c'est un coming out hétéro. C'est comment annoncer qu'on est hétéro dans une famille
quand on vous croit
où tout le monde pense qu'on est homo. Et dans le film, il joue son propre personnage, une sorte d'ado ahuri, et également sa mère. Mmh. Et oui, alors pourquoi ? Ben, il explique qu'il aurait été très mal à l'aise de devoir expliquer à une actrice comment parler sa mère. Et il ajoute « Elle m'attendrit tellement que je savais que ma tendresse et mon humour allaient la défendre. » Et la Croisette, qui n'est pas connue pour son sens de l'humour prodigieux, s'est gondolée de rire.
Florence, vous nous confirmez ça. Florence, on est obligé de vous embrasser parce que je crois qu'il faut que vous libériez le studio à Cannes.
D'accord, mais je vous embrasse.
On vous embrasse très fort et j'espère que la semaine prochaine, vous nous ferez l'honneur de votre présence ici.
Avec plaisir.
Sous la pluie. Merci Florence.
Au revoir.
Merci à tous et tous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec la revue de presse de Tweet et l'homme qui coiffe Nicole Kidman depuis 10 jours au Festival de Cannes, John Nollet, pour un questionnel en direct de la Croisette. A tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Avant de retrouver le coiffeur star de L'Oréal, j'ai nommé John Nollet en direct de Cannes pour le questionnel. Place à la revue de presse. La polémique Edouard ne tient qu'à un tweet.
Eh bien oui, c'est vrai que moi j'ai tout d'un coup ouvert mon ordinateur et j'ai vu Nicolas Bedos le dérapage. Alors je me dis qu'à... Encore-t-il fait le garnement ? A-t-il encore traité de salope une femme du gouvernement ? A-t-il encore dit que Nicolas Sarkozy était un VRP cocaïné ? Eh bien, pas du tout. Il a simplement tweeté le soir de la finale de The Voice. Y a-t-il une version hétéro de The Voice ? Voilà, juste ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'émission, ça se dandine pas mal sur du Mylène Farmer. Mais enfin, quand même, si, on peut, plus,
drôle,
si tweet, on peut plus rigoler deux minutes, c'est un tout petit peu embêtant. Et puis surtout, vouloir sous-entendre qu'il y aurait un côté gay, homosexuel dans l'émission, c'est quand même pas une injure aujourd'hui.
Oui.
Donc, puis surtout en termes de chansons, George Michael, Freddie Mercury ou Elton John ont quand même fait des petites carrières. Alors dans la semaine aussi, encore une fois, eh bien, un petit peu de pudibonderie, puisque Ozon a fait scandale avec son film Jeune et Jolie, puisque ça parle de prostitution, et il a dit « Nombreuses sont les femmes qui ont un fantasme de prostitution ». Alors, il y a eu deux levées de boucliers. D'un côté, les féministes qui se sont dit « Mais c'est atroce, la prostitution est une souffrance, et voilà, et on ne peut pas jouer avec ces mots-là ». Et puis, de l'autre côté, évidemment, les artistes anti-censure qui se sont dit « Mais si on ne peut plus rien dire, c'est une catastrophe ». Moi, je pense que ce sont les psys qui auraient dû se manifester, parce que le fantasme, on le sait, c'est l'antichambre du désir. Et à elle, on a un jeu très drôle. Parfois, on s'amuse à imaginer la fin du monde et avec qui on coucherait dans le bureau s'il restait plus qu'une journée pour faire l'amour. Voilà. Ah ben c'est quand même bien, le fantasme s'est fait pour ça. Donc voilà, moi je pense à Buñuel, je pense à Pasolini, je pense à Kubrick et osons eh bien, continuer, cher monsieur, à faire des films, même avec de la prostitution.
Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui,
Alix,
une promo qui va beaucoup plaire à mon camarade Edouard. Vous connaissez le concept du à volonté? Alors, il y avait la paella à volonté, le sushi à volonté.
Bien sûr.
Et là, c'est
à
la
discrétion
femme.
Même. À discrétion. La mousse au chocolat à
là,
discrétion.
Là, c'est la femme à volonté. Ça se passe dans un bordel, dans plusieurs bordels. Il y en a de plus en plus qui ont pris cette formule en Suisse. Donc, vous avez 60 filles à disposition pendant une journée pour 160 francs suisses, qui n'est pas très cher, plus un repas chaud. Donc, c'est important de préciser. Donc là, j'ai quelque chose de très élégant à dire.
Et une sortie avec Europe Assistance, parce que le type en peut plus.
Tu vas voir. Après le all you can eat, all you can nick. C'est élégant, non?
Mais
j'ai presque pas quoi à faire. Alors non, effectivement, il y a quand même
bonne fête des mères.
C'est bonne fête des mères. C'est un concept monstrueux, on est bien d'accord. Et il y a des tas d'associations de femmes qui ont dit c'est scandaleux, la marchandisation de pire en pire. Mais il y a quand même une chose qui pourra les rasséréner, toutes ces dames, c'est qu'il y a un patron de bordel qui a dit vous pensez bien que si on propose cette formule, c'est parce qu'on a envie de gagner de l'argent et que ce soit intéressant.
intéressant. Or, les hommes, ils arrivent tous en pensant que dans l'après-midi, ils vont avoir 8 ou 9 femmes. En fait, au bout de 2, ils calent.
Ils mais oui, ils sont pas des bonobos. Il y a que les bonobos qui réussissent.
Donc, en fait, c'est eux qui se font avoir. C'est pas du tout ces jeunes femmes.
Le concept innovant, Olivia, pour rester dans cette ambiance, nous vient de Belgique.
Oui, c'est une ambiance toujours très fraîche, hein, mais en même temps, on est sur une thématique. C'est une société belge de femmes de ménage qui propose à ses clients de leur envoyer donc des femmes de ménage habillées très très légèrement, voire totalement toutes nues, ou selon leur fantasme, justement, on y revient. Alors, moyennant un petit supplément, le client peut être lui aussi nu devant sa femme de ménage, et moyennant encore quelques euros, pas suisse, il peut même prendre sa douche pendant qu'elle nettoie la salle de bain. Ça vous fait penser à un truc?
Oh là là, non,
ça m'a fait penser à quelque chose. Et j'ai été voir le site, n'écoutant que mon courage et mon esprit d'enquête. Alors, je ne sais pas comment s'appellent vos femmes de ménage, mais celle-là s'appelle Lola, Framboise, Natacha et Aphrodite. Il n'est requis absolument aucune expérience de ménage. Hein. Il faut juste avoir de la bonne volonté et une bonne présentation. Alors, je ne sais pas ce qu'elles vont astiquer, mais en tous les cas, ça me paraît
Olivia,
un tout petit peu louche.
Catherine, juste pour finir, le bouche à oreille, c'est Adriana Carambeu.
Oui, parce que moi, j'aime beaucoup les émissions de Michel Simès et d'Adriana, parce que tantôt, ils vont dans le froid, dans les montagnes. Là, ils étaient dans le chaud en Afrique pour voir comment le corps humain se comporte. Et voilà, on voit que Michel Simès, quand il fait chaud, est assez allumé. Et la belle Adriana, je la regardais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On ne la reconnaît pas tout à fait. Et là, j'ai remarqué qu'elle avait dû vouloir améliorer l'ordinaire qui est sublime en faisant quelques travaux sur la bouche, avec un peu une bouche et le sourire échangé. Moi, je pense qu'elle a eu tort. Donc, j'espère pour elle que c'est de l'acide hyaluronique qui s'en va avec le temps et qu'elle reprendra.
Mais vous êtes semblée connaisseuse,
En fait, si on résume tout ce qu'on vient de dire, en fait, on a le fantasme de Nicolas Bedos avec des lèvres siliconées qui ferait de la prostitution gay. En gros, c'est le thème.
Je vous laisse mettre de ces propos, Edouard. Merci à tous. C'est le moment tant attendu du questionnaire. Depuis 10 jours, il est le seul à pouvoir toucher Nicole Kidman, à lui prendre la tête, tout du moins. Coiffeur expert pour L'Oréal Paris, il est le coiffeur attitré de la jurée australienne. À part ça, il est né à Courchelette, dans le Nord, a demandé pour Noël toute la panoplie du coiffeur à sa grand-mère dès 8 ans, avant de monter pour la première fois les marches du Palais du Festival à 14 ans. Ami de Monica Bellucci, Cécile Cassel, Vanessa Paradis et bien d'autres, il est beau comme Jésus et coiffe comme un dieu. John Nolet, bonjour.
Oh, comme c'est gentil tout ça.
Oh, mais c'est mérité.
Bonjour à tous, comment allez-vous?
Ça va et vous-même?
Bien, je vous remercie.
Bon, merci d'être avec nous. Voilà, c'est une émission spéciale faite des mamans. Donc, on a des pâtissiers, on a John Nolet, on a tout ça. Voilà. Merci. Alors, John, vous ne connaissez peut-être pas le principe du questionnaire. Vous avez 2 minutes pour répondre à 10 questions.
D'accord.
Alors, première question, comment fait-on pour coiffer Nicole Kidman, qui coiffe déjà naturellement tout le monde de 2 têtes?
Très facile, parce que cette femme est tellement inspirante qu'il ne suffit, il suffit de se laisser faire, de se laisser aller et de créer autour de sa beauté.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour Daniel Auteuil qui lui a l'air d'un nain quand même à côté d'elle? Il faut lui... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Un décollement de racines?
Mais j'ai pas la chance de pouvoir lui offrir un chignon, il me l'a pas demandé, sinon je le ferai avec plaisir.
Alors sérieusement, John, elle est comment Nicole? Est-ce qu'elle est sympa?
Elle est très sympathique, elle est très inspirante, c'est ce que je me disais à l'instant. Je viens de la préparer ce matin et ça se passe extrêmement rapidement. Mais c'est une femme qui vous laisse travailler, qui vous fait confiance. Et
est-ce qu'elle a une belle fibre capillaire?
Magnifique. Bon, ce qu'on veut, vous avez vu, on s'amuse pas mal ensemble cette semaine. Et elle a un cheveu magnifique et on peut vraiment faire ce qu'on veut.
Mais est-ce qu'elle a des cicatrices derrière les oreilles?
Absolument pas. Puis alors, de toute façon, si toutefois c'était le cas, mais comptez sur moi pour ne pas vous le dire.
Mais John, comment expliquez-vous que les femmes confient absolument tout à leur coiffeur?
Mais c'est pas vrai, moi, on me confie rien, on me confie que leur chevelure.
Est-ce que c'est à vous, John, que l'on doit la métamorphose de Vanessa Paradis, ce carré long flou sublime?
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire nouvelle coupe, nouvelle vie?
Je sais pas, je l'ai lu dans la presse. Je crois que c'est surtout nouvelle coupe, nouvel album, Vanessa vient d'avoir 40 ans, elle est sublime. C'est une façon de se remettre.
Mais enfin, on est toutes un peu pareil. Quand on se fait couper les cheveux, c'est quand même qu'il y a un loup.
Pas forcément.
Alors donnez-nous votre avis sur les coupes suivantes. Justin Bieber.
Justin Bieber, bah, je trouve que de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire.
David Beckham, qui ne fait que se recoiffer tout le temps, hein, même sur la pelouse. Hein.
Je n'ai pas encore eu le plaisir de le coiffer ni de lui couper les cheveux, mais franchement, je trouve que c'est un très beau footballeur.
François Hollande.
Peut mieux faire.
Peut mieux faire. Couleur, au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit?
Moi, je prône toujours le naturel.
Alors, s'il y en a bien un que la pluie doit rendre dingue, c'est vous, non? Vous avez pensé quoi du wet look de Sarah Forestier? C'était fait exprès?
Écoutez, je suppose, en tout cas, si c'est sinon, ça aurait été...
Étrange. Oh, vous êtes bien élevé. Alors John, maintenant on va parler sérieux. Les trois secrets pour avoir un beau cheveu.
Pour avoir un beau cheveu, avant tout, il faut soigner ses cheveux.
C'est-à-dire
prendre les bons shampoings. Si vous avez les cheveux qui sont over-processed, il faut absolument trouver les shampoings adéquats. Les soins, les masques, ever rich, ever pure, sont des choses qui mettent le cheveu en condition, j'ai envie de vous dire.
Est-ce vrai que si on ne se lave les cheveux qu'une fois, si on ne fait qu'un shampoing, autrement dit, c'est comme si on ne faisait rien?
Absolument, sauf si vous avez lavé vos cheveux la veille. C'est-à-dire que le shampoing unique fonctionne à condition d'avoir lavé vos cheveux la veille.
De les laver tous les jours.
Si vous avez passé deux jours, il faut vraiment en faire deux.
Bon, alors, le secret maintenant pour avoir deux, une coupe réussie.
À trouver son coiffeur.
Bon. Ah. Et si on n'a pas la chance d'avoir un John avec nous?
Vous savez, avant d'être John avec vous au téléphone maintenant, j'étais coiffeur inconnu et j'avais la même coupe. Vous savez,
on n'a surtout pas les moyens d'avoir John comme coiffeur, on rêverait.
C'est une histoire de moyens, c'est une histoire d'envie, parce qu'en fait, quand on vient chez moi, sachez qu'on vient qu'une fois par an ou deux fois par an. À la fin, je suis beaucoup plus économe comme coiffeur que tous les autres, où on peut aller tous les mois. Et finalement, à la fin du compte, à la fin de l'année, c'est moins cher de venir chez moi.
Et enfin, le secret pour avoir une couleur au poil.
Écoutez, si vous n'avez pas la chance d'avoir Christophe Robin,
oui.
Il faut aussi trouver votre coloriste, parce que une couleur, la texture de cheveux, la qualité, la coupe et la couleur sont vraiment la base. Mais je trouve que justement ce qui est beau dans la couleur, c'est quand on a l'impression, comme pour le reste d'ailleurs, que c'est naturel.
Que c'est naturel.
Comme chez François Hollande.
Voilà. Alors John, vous êtes plutôt du genre coupe au bol ou carré?
Carré.
Peigne ou brosse?
Les deux, mon colonel.
John Lennon, John Wayne ou John Nia Hallyday?
John Lennon.
Enfin, John, vous faites quoi le dimanche?
Le dimanche, je me repose en général. Mais pas quand je suis à Cannes, bien entendu.
Et est-ce que vous pensez que la Palme d'Or va se jouer à un cheveu cette année?
Je ne sais pas, on verra. C'est un chignon qui fait.
Merci, John Nollet, d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu. On va regarder votre œuvre ce soir sur Nicole Kidman.
Merci infiniment.
À très bientôt, j'espère. On vous embrasse. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même bande, dans Il n'y en a pas deux comme elle. Très bon dimanche sur Europe 1 et très bonne fête des mères.
Oui, merci beaucoup Marion Ruggieri. À la semaine prochaine. Vous êtes sur Europe 1, il est midi. Et dans un instant, il est plutôt coupé en brosse, lui, hein, Jean-Luc Petit-Renaud. C'est le bistrot du dimanche.